Dame de graisse qui danse encore à minuit. Dansera jusqu'à l'aurore.
Dans cette deuxième partie de Liberté sur Parole, j'ai le plaisir d'accueillir Valère Starazelski. Bonjour.
Bonjour, Lily.
Alors, vous faites paraître actuellement, ça s'est paru il y a quelques semaines, quelques mois peut-être maintenant, Face au nouveau maître. C'est paru aux éditions L'Harmattan et c'est un recueil de textes assez disparates, mais très, très continus quand même. On va justement parler de cette forme parce que c'est assez original. C'est à la fois des interviews, des préfaces, des chroniques, des articles. C'est un peu votre production de 2003 à 2012. C'est votre écriture, j'allais dire, quotidienne, un petit peu.
Oui, c'est un choix d'articles, de chroniques, de choses qui ne sont pas ni du roman, ni de la fiction, ni des essais. Voilà.
Alors, que vous faites par ailleurs, puisque vous avez publié plusieurs romans. Un homme inutile, dans la folie d'une colère très juste, ça c'était avant. J'aime bien vos titres, en tout cas. Le maître du jardin, Monsieur le député, Nuit d'hiver, Une histoire française, que je n'ai pas lu, je vous le confesse. Je n'ai pas lu vos autres...
Je vous en ai amené.
Ah, très bien, très bien. Et puis vous êtes aussi un des meilleurs spécialistes d'Aragon.
Oui, enfin, un des meilleurs spécialistes. Oui, je connais bien Aragon, oui. J'ai écrit une biographie, un essai biographique, il y a assez longtemps, que j'ai réécrit, que j'ai fait republier en 2005. Et puis, j'ai fait une thèse sur ses derniers romans. Et comme nous sommes en pleine célébration du trentenaire de sa mort, je circule à travers toute la France pour parler d'Aragon. Et j'étais à Toulouse ce week-end et je m'en vais à Brest et Rennes dans la semaine qui vient.
Eh bien, très bien, voilà. Formidable.
Voilà.
Alors, pour parler un petit peu de votre parcours, vous êtes, vous l'avez dit, universitaire. Vous êtes historien au départ de formation et docteur en lettres.
Oui, enfin, je suis pas universitaire. Je suis universitaire de formation.
Vous l'êtes devenu.
Ouais, mais c'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est complètement autre chose. Je suis directeur de la culture au comité d'entreprise de DFGDF. Donc, je travaille dans un des plus grands comités d'entreprise de France. Et mais j'ai fait, j'ai fait un doctorat de lettres sur Aragon, des études d'histoire. En exerçant différents boulots en même temps.
Voilà. Alors, vous dites que vous avez un métier, donc vous occupez de culture au comité d'entreprise d'EDF, mais vous êtes aussi écrivain. Ça, c'est aussi une grande part de votre vie, de toute façon. On a l'impression que l'écriture a toujours fait partie de votre vie et que c'est quelque chose, j'allais dire, de quotidien. Et ce livre, Face au nouveau maître, montre que ces chroniques, ces préfaces, ces interviews, c'est toujours des choses en lien avec la vie.
En lien avec la vie, avec la littérature. En fait, j'ai toujours été dans la littérature, plus ou moins, bien sûr, plus ou moins, parce que même aujourd'hui, je vole du temps, comme beaucoup d'ailleurs, pour écrire, pour lire et pour écrire, parce que je pense qu'on ne peut pas vivre sans littérature, que la littérature dit beaucoup de vérités. Sur le réel, sur la vie, sur le réel passé, parce que pour comprendre ce qui s'est passé, la littérature nous aide beaucoup. Karl Marx voulait faire une étude sur Balzac avant de mourir. Il est mort avant. Donc la littérature est quelque chose de sérieux et quelque chose qui, moi, me fait vivre. C'est quelque chose que je mets au-dessus de tout ou au cœur de tout, mais c'est un vrai combat, parce que dans toute époque, il y a une haine de la littérature, une haine de l'art, et il faut s'en occuper sérieusement, quoi.
Vous dites une haine de l'art à ce point-là ?
Ah, je pense, oui. Je pense qu'il y a une haine de l'art, une haine de la littérature qui, on le voit dans les périodes historiques, il y a eu des destructions d'œuvres artistiques. Il y en a encore aujourd'hui. Mmh. Et puis, les adeptes de la vulgarité occupent souvent le devant de la scène. Donc, évidemment, quand on vient avec quelque chose qui ressemble un petit peu à du sacré ou quelque chose qui ressemble à de la dignité, on n'accepte pas facilement. Il faut batailler pour que ça puisse exister, quoi. Dignité ou exigence, quoi, voilà, avec un peu d'exigence. C'est tellement plus, c'est tellement mieux. Et puis d'ailleurs, ça traverse le temps. Entre telle personne dont on parle beaucoup aujourd'hui et qui vend des millions de bouquins et Aristote, au final, comme on dit aujourd'hui,
on verra ça dans quelques siècles.
C'est Aristote qui l'emporte, quoi. Voilà.
Oui, non, mais bien voilà. sûr. Non, non, mais alors, par contre, bon, les musées sont quand même très fréquentés. Il y a quand même l'architecture aussi, déplace les foules. Je ne sais pas s'il y a vraiment une haine de l'art, là. Je pense que vous...
Que j'exagère un petit
j'espère,
peu.
J'espère.
Ah, oui, enfin, peut-être que je me trompe. Non, mais bien sûr, il y a évidemment des gens qui aiment l'art. Mais je pense quand même qu'on... Comment dire, on produit beaucoup de lait, on produit beaucoup de choses qui, dans lesquelles l'humain n'est pas très bien, quoi. Mmh. Or, je pense que l'art est lié à l'imaginaire. Mmh. Et l'imaginaire, ce n'est pas ce qui n'est pas réel. L'imaginaire, c'est ce qui a rapport à l'image de soi. Mmh. Et donc, en tout cas, c'est une bataille pour l'art. Il faut mener une bataille.
Mmh. Oui, donc vous liez art et engagement, littérature et engagement. Parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais vous êtes un militant. Un militant
Oui, j'ai été formé comme ça. Oui, je viens des couches populaires et donc pour moi la formation s'est faite aussi à l'époque, j'ai 55 ans, par le Parti communiste et par l'investissement, par la militance. Donc là, on a par exemple quelqu'un comme Oscar Niemeyer qui est mort à 105 ans, qui était un communiste à vie. On peut parler aussi d'Eric Osborne, l'historien anglais, qui était aussi un communiste à vie, comme Aragon est un communiste à vie. Je ne sais pas si je serai communiste à vie. En tout cas, j'essaie. Je pense que le communisme a eu... Il y a eu une espèce de forme que j'appellerais utopique, soviétique. On dit stalinisme pour aller vite. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a eu une première tentative comme ça. Mais en tout cas, je crois beaucoup qu'on peut inventer une organisation humaine qui permette à chacun de vivre dignement, quoi. Moi, j'appelle ça communisme. Voilà.
Oui, voilà. Mais c'est bien de donner cette définition.
Voilà, j'appelle ça communisme. Et ça reste à inventer.
Une certaine forme. Soviétique et communiste.
Oui,
de toute façon,
tout à fait.
Très souvent.
Tout à fait. Les soviétiques sont des Russes. Et les Russes, ils continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait. On le voit aujourd'hui. Donc, avec des méthodes qui sont liées à leur pays. Enfin, j'espère que ça va bouger, que ça va évoluer. Mais voilà. Donc, je crois qu'il y a encore ça à inventer, à chercher. Et puis, il faut se battre pour ça, parce que ce n'est pas le premier geste que de faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble. Je crois même que, comme le dit très bien le philosophe Dany Robert Dufour, dans ses ouvrages, et notamment dans un ouvrage que je recommande vraiment, qui s'appelle « L'individu qui vient après le libéralisme », il explique que nous ne vivons pas une époque d'individualisme, mais ça serait bien qu'on puisse vivre une époque d'individualisme, mais on vit une époque d'égoïsme. Mmh. Et là-dessus, je pense qu'il a assez raison. Alors, ça ne veut pas dire que le comportement des gens, de tout le monde est celui-ci, mais c'est quand même le modèle.
Oui, tout
c'est,
à fait.
C'est le modèle et, à terme, ça engendre des catastrophes. Ça engendre des choses très, très dures. Donc voilà, il faut s'occuper de tout ça. Et la littérature, l'art, en tout cas pour moi, la littérature, c'est un moyen de comprendre ce qu'il y a autour par des chemins détournés parce que c'est jamais voilà.
Oui, vos chroniques là en tout cas sont jamais frontales, c'est toujours une manière de voilà.
Oui,
de
c'est le détour par la littérature en fait. Oui, quand il y a l'affaire des SK, je parle de Louis XIII.
Voilà.
De Louis XIII qui avait une haute opinion de sa fonction et qui faisait pas n'importe quoi avec les femmes. Mmh. Et donc c'est rapporté par Saint-Simon, donc voilà, c'était une façon de parler du comportement de certains hommes avec les femmes quand ils ont du pouvoir.
Mmh. Oui, donc tous ne sont pas... Voilà, c'est aussi plein d'espoir, ce livre, moi, j'ai trouvé.
Ah bah écoutez,
parce qu'il
y
a vraiment plein de belles choses. Mmh. Vous cherchez à chaque fois le contre-exemple. Ça peut être Louis XIII, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être le
bien
fait de lire une nouvelle de Maupassant. Ça provoque une symbiose et puis tout d'un coup, une atmosphère particulière. C'est vraiment... Puis vous parlez aussi des... J'ai beaucoup été touchée par la petite chronique sur le film Bienvenue chez les Ch'tis, que je n'ai pas vu, dont on dit le plus grand mal. Mais vous défendez ce film et vous défendez surtout une dignité des gens du Nord dans ce film.
Oui, tout à fait. Bah, c'est-à-dire que là, je suis un peu à contre-courant, mais pas mal. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de... de haine de l'art. Alors, je dis ça parce que dans l'art contemporain... Aujourd'hui, me semble-t-il, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de l'art et qui sont même le contraire de l'art. Voilà. Alors, je sais que je suis à contre-courant en disant ça.
Mais c'est d'accord pas, mais avec Jacques Rancière, c'est déjà pas mal.
Oui, bien sûr, oui. Non, mais voilà, je pense pas qu'il faille être réactionnaire. Être réactionnaire, c'est réagir. Je pense qu'il faut agir, mais par exemple, dans une nouvelle que j'avais écrite il y a longtemps, La Revanche de Michel-Ange, je racontais que Michel-Ange s'appuyait sur les anciens. Sur la connaissance des anciens. Moi, je pense qu'il n'y a pas de révolution sans connaissance de la tradition, sans connaissance des maîtres, sans connaissance de ce qui s'est fait avant. Et en discutant avec un auteur très connu, il m'avait dit « moi, je m'en fous de ce qu'il y a avant ». Je dis « mais c'est quand même un peu embêtant de ne pas connaître ce qu'il y a avant, parce que je pense que l'art, la littérature, en tout cas, c'est une école d'humilité ». Puisque on met en avant, je veux dire, bien sûr soi-même, mais pour essayer de toucher l'universel, pour essayer de toucher ce qui touche tout le monde. Et comment dire ? Et c'est vrai que je pense que c'est une bataille continue. Enfin, ça l'était au XVIIe, au XVIIIe, ça l'est aujourd'hui en Chine ou à Sumatra ou je ne sais où. Mais c'est comme ça. Donc évidemment, c'est pas du désespoir. C'est la bataille est joyeuse. La bataille est joyeuse et il faut l'accepter. C'est la vie est un combat, c'est comme ça.
Oui, mais ça on le sent bien aussi. Mmh. Et puis ce combat aussi pour rester fidèle à soi-même. Ça, c'est un des plus gros combats et qu'on sent. Alors, je sais pas pour comment vous dire à quoi on le sent, mais on sent une fidélité à soi-même, on sent une fidélité à son indépendance de pensée. Ça, oui. C'est très, très important, je pense.
Oui, écoutez, oui. Alors, fidèle à soi-même, il y a l'enfance. Dans l'enfance, bon, ça dépend des enfances qu'on a eues, mais bon, malheureux sont ceux qui ont une enfance heureuse, disait un auteur. Ceux qui ont une enfance un peu plus compliquée connaissent mieux le prix des choses, me semble-t-il. Et comment dire, il y a un quant à soi, ou en tout cas, il y a ce que vous appelez, enfin, ce que vous dites très bien, une indépendance qui est absolument nécessaire pour rester libre et pour pouvoir, comment dire, continuer à vivre avec soi-même. Mmh. Et c'est vrai que, comment dire, les gens qui en général lâchent ou là-dessus, ou qui font des compromis, on en fait tous, c'est normal, mais qui tombent dans des compromissions trop souvent, ça finit mal, quoi. Mmh. Ça finit mal, ça, en maladie, en tout ce qu'on veut, etc. Donc là encore, c'est un combat. Là encore, c'est un engagement. Oui. Et là encore, c'est tous les jours, tous les matins. En fait, il y a une expression que j'aime bien, c'est remettre sa montre à l'heure tous les jours. Mmh. Alors, il faut remettre la montre à l'heure tous les jours et dans ce domaine-là aussi. Et on est vite tenté, évidemment, dans une société, par exemple, de consommation, de consommer, y compris ce qu'on peut appeler de l'art ou de la littérature, alors que ça n'en est pas. Il faut faire le petit pas de côté pour se dire, pourquoi est-ce que moi je verrais les choses comme ça ? Moi, je ne suis pas d'accord avec la façon dont on représente les choses. Et donc, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas d'accord avec ça ? Je suis mal, je ne suis pas... Bon, voilà. Donc, on cherche soi-même et on finit. Évidemment, il faut qu'on passe par soi, sinon on ne peut pas le faire. Quoi.
Oui, mais ça, c'est votre réflexe, on le voit dans le livre, mais c'est quelque chose de très rare. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais on lit, quand on, vous êtes éditorialiste, vous produisez, donc vous avez des choses à écrire avec des impératifs de temps, etc. Et souvent, on lit des choses qui sont inscrites dans un système. C'est-à-dire qu'on connaît le développement de l'auteur avant d'avoir lu son article. On sait de quoi il va parler et on sait comment il va en parler. On sait ce qu'il va répéter. Oui. Ce sont des arguments rebattus. J'ai trouvé beaucoup de nouveautés et de fraîcheur à chacune de vos chroniques ou de vos interventions.
Écoutez, c'est gentil. En tout cas, ça me remet du baume au cœur et pour avoir du cœur à l'ouvrage. Parce que, comment dire...
De toute façon, je pense que vous n'arrêtez jamais. C'est pas prévu que vous arrêtiez.
Non, parce que c'est... Comment dire... la réalité est tellement décevante. Alors, la vie n'est pas décevante. Elle est déceptive, c'est-à-dire qu'elle fabrique de la déception. Mmh. Et plus on vieillit, évidemment, il y a les morts, il y a les maladies, il y a la santé, enfin, il y a tout ce que traversent les gens. Et donc, il faut trouver le viatique pour arriver à vivre, quoi, à vivre jusqu'au bout et dignement. Donc, en fait, on le trouve dans les choses très simples. Très, très simples. Et évidemment, ça, c'est hors système. Mmh. Et la véritable littérature, le véritable art, c'est faire ce pas de côté. Et évidemment, il n'y a pas de reconnaissance immédiate. Il y a peut-être une petite reconnaissance. Et parce que quand on dit, c'est un petit peu cette idée que la liberté, la véritable liberté, les gens n'en veulent pas souvent parce que c'est effrayant. C'est effrayant que de devoir se prendre en charge, que de devoir aller au combat et pas forcément gagner, quoi. Donc là, c'est un peu la même chose. Voilà.
Donc, face aux nouveaux maîtres, ce sont ceux-là. Les nouveaux maîtres, ils sont peut-être en nous aussi.
Bien sûr, oui, oui. La servitude volontaire, ça existe. Hein. Donc, l'acceptation du monde sans remise en question. Aragon parlait de la remise en question de la chose jugée. Alors, parce que quand on ne remet pas en question, au bout d'un moment, on remet en cause. Mais quand on remet en cause, on jette le bébé avec l'eau du bain, quoi. Mmh. Or, il faut remettre en question. C'est normal, c'est tout à fait normal, c'est même aimant par rapport à l'autre, par rapport à la vie, que de remettre les choses en question.
Oui, ben vous parlez, je ne sais plus si je vais le retrouver, mais il y a de très belles lignes d'Aragon dans ce livre.
Je vais en lire tout à l'heure.
Où il parle justement du doute et de l'homme qui se construit. Oui, oui. C'est magnifique. En tout cas, moi qui ai peu lu Aragon,
ça donne très envie de lire
Aragon.
C'est un texte, je l'ai là, et d'ailleurs j'étais très content que Philippe Cobert le rajoute dans son spectacle. Sur Aragon, il l'a rajouté comme conclusion, parce qu'effectivement, on peut parler de. En fait, Aragon disait que ce qui compte, c'est pas les détails d'une vie, mais c'est la signification générale d'une vie. Et moi, je me pose souvent la question, bon, à l'heure de ma mort, quelle image j'aurai de moi, quoi, comment mourir en paix aussi, parce que c'est un vrai travail, ça aussi, que d'arriver.
Attendez, dépêchez-vous, là, c'est bientôt la fin du monde, il va falloir qu'on s'y prépare.
Il faut qu'on se prépare, voilà. Et donc, ce texte-là dont vous parlez, ben, je le lirai tout à l'heure, dit la signification générale, à mon avis, de la vie d'un type comme Aragon.
Justement, puisqu'on parle d'Aragon, on va en écouter un petit peu d'Aragon dans la voix de Jean Ferrat.
Eh bien, voilà. Merci.
Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute, ni pour la pitié, ni pour l'aide, ni comme on avouerait ses fautes. Ce qui m'habite et qui m'obsède, ce qui m'habite et qui m'obsède. Celui qui chante se torture. Quel crise en moi, quel animal je tue. Ou quelle créature, au nom du bien, au nom du mal, seuls le savent ceux qui se turent. Seuls le savent ceux qui se turent. Machado d'or à Collioure, trois pas suffirent hors d'Espagne. Que le ciel pour lui se fit lourd, il s'assit dans cette campagne et ferma les yeux pour toujours. Et ferma les yeux pour toujours. Au-dessus des eaux et des plaines, au-dessus des toits, des collines, un plein champ monte à gorge pleine. Est-ce vers l'étoile Holderlin? Est-ce vers l'étoile Verlaine? Est-ce vers l'étoile Verlaine? Marlowe, il te faut la taverne, non pour Faust, mais pour y mourir. Entre les tueurs qui te cernent de leurs poignards et de leurs rires, à la lueur d'une lanterne, à la lueur d'une lanterne. Étoile poussière de flamme, en août qui tombait sur le sol, tout le ciel cette nuit proclame l'hécatombe des rossignols. Mais que c'est l'univers du drame, mais que c'est l'univers du drame. La souffrance enfante les songes comme une ruche ses abeilles. L'homme crie où son fer le ronge, et sa plaie engendre un soleil plus beau que les anciens mensonges, plus beau que les anciens mensonges. ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute, ni pour la pitié, ni pour l'aide, ni comme on avouerait ses fautes, ce qui m'habite et qui m'obsède, ce qui m'habite et qui m'obsède.
Voilà, c'était donc Les Poètes. On parlait justement hors antenne, Valère Starazelski, de Jean Ferrat, auquel vous avez consacré une chronique. Alors, je ne sais plus dans quelle, parce que alors c'est des choses assez parues à la fois.
C'est dans Témoignages chrétiens.
Dans Témoignages chrétiens. Vous avez dit votre étonnement de voir cette ferveur au moment de son enterrement. Et effectivement, on constate que cet homme de gauche, que cet homme engagé, que ce chanteur intègre, eh bien, il avait une reconnaissance populaire énorme. Ça rassure un petit peu sur l'état du monde.
Oui, des gens. Bien sûr, non, c'est pour ça, ne soyons pas désespérés. Et par contre, il ne faut rien laisser passer.
Oui.
Voilà. Mais d'ailleurs, Jean Ferrat ne mâchait pas ses mots à la fin. Il était extrêmement virulent. Moi, je l'ai rencontré une fois. Vraiment quelqu'un d'une gentillesse vraiment absolue. Vraiment, c'est quelqu'un Voilà, et qui faisait corps avec cette partie du peuple, de la population, qui justement cette exigence aussi morale, quoi, artistique et morale, dont je parlais tout à l'heure. Oui. Ah oui, c'est clair, pour que Paris Match, par exemple, fasse trois fois sa une sur Jean Ferrat, c'est que, évidemment...
Ça vendait. Ils ne font pas si ça ne vend pas.
C'est que ça vendait. Voilà,
c'est qu'ils étaient bien obligés. Je pense que, quelque part, ça devait un petit peu les embêter. Mais bon, c'est malgré tout, enfin, voilà, il y avait cette ferveur populaire. Dans ce livre, donc, je rappelle, Face au nouveau maître, on sent un engagement permanent, un attachement vraiment aussi aux politiques, mais souvent à travers des philosophes, notamment Michel Suria, par exemple, qu'on connaît, mais c'est le fondateur de la revue Ligne, notamment, mais on ne le connaît pas forcément. C'est aussi l'occasion de faire découvrir à vos lecteurs, parce que bon, ceux qui vont acheter ce livre, bien sûr, mais ceux qui aussi ont lu ses chroniques, c'est-à-dire que c'était des chroniques dans l'Humain, c'est des chroniques... pas forcément destiné à des gens qui veulent s'intéresser à la philosophie. Mais vous essayez toujours d'insinuer les choses comme ça dans la presse.
Oui, c'est-à-dire que j'essaie de me servir de la presse. Alors bon, c'est quand même... Ou d'Internet. D'ailleurs, on a notre site, La Faute à Diderot, qui commence à être extrêmement regardé, où on met des textes comme ça, pas forcément faciles, mais des textes qui réfléchissent, qui parlent, qui prennent position sur aujourd'hui, sur le réel d'aujourd'hui. Ouais. Donc évidemment... les philosophes, on ne peut pas faire l'économie des philosophes. Alors, par exemple, évidemment, moi, Alain Badiou, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'il dit. Je considère que si on suit Alain Badiou, c'est une espèce de communisme aristocratique qui aboutit au Khmer Rouge. Donc, évidemment, je n'en dirai pas du bien. En tout cas, j'essaierai de montrer en quoi c'est très dangereux ce qu'il dit. Mm-hmm. Par contre, il y a des gens comme Rancière, comme Suria, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Peu importe. Le principal, c'est qu'il y ait un effort d'intelligibilité du réel. Mmh. Et évidemment, comme disait Pasolini, la vérité n'est pas dans un rêve, mais dans plusieurs. Il faut vraiment qu'on ait, à notre disposition comme ça, des gens qui travaillent. Donc, il faut, quelqu'un comme moi doit faire en sorte que ces gens trouvent des lecteurs, soient connus, que ce qu'ils portent comme regard sur le monde soit le plus connu possible. Mmh. Il faut faire partager les choses. Ça ne sert à rien de
vous les partager et vous les discuter. Parce que même dans quelque chose d'assez court, vous expliquez, vous discutez, vous objectez. C'est-à-dire que vous ne faites jamais de la promotion au sens, publicitaire du terme.
Oui, commercial, oui. Non, mais tout à fait. Mais le fait de pouvoir discuter, c'est génial. parce que ça veut dire que c'est vivant et qu'il y a une contradiction qui n'est pas antagonique ou qu'il est. Enfin, vous voyez, je parlais de Badiou, j'ai rien contre l'homme. Hein. Je dis voilà, c'est dangereux parce que on l'a beaucoup encensé, etc., etc. Alors qu'à mon avis, il nous entraîne dans une. Enfin, c'est une aporie, quoi. C'est une impasse. Et que pendant ce temps-là, les nouveaux maîtres sont très contents parce que.
Ceci dit, sa dénonciation du langage, c'est quelque chose que vous pouvez rejoindre.
Oui, mais voilà. Par exemple, oui. Mais n'empêche qu'au bout du compte, voilà.
Le nouveau langage, l'appropriation des mots.
Voilà ce que je dis. Parce que quelqu'un comme Dufour, par exemple, Danny Robert Dufour, lui, il montre que la gauche dite radicale se gourre complètement. Et évidemment, il n'est pas très en vogue dans cette gauche-là. Or, moi, je pense que ce qu'il dit, il a raison. Je pense qu'effectivement...
Pour ceux qui ne l'ont pas lu, comme
l'individu, moi... L'individu qui vient après le libéralisme, l'art de réduire les têtes... la cité perverse, par exemple sur Sade, il dit tout le contraire de ce qu'on dit depuis des siècles, à savoir que c'est une libération. Lui, il met en regard Sade et Adam Smith et montre qu'effectivement dans Sade, bon, il y a du sadisme bien sûr, mais l'autre est un objet. Or moi, je suis plutôt pour La Fontaine. Je suis plutôt pour les contes érotiques, c'est-à-dire que l'autre n'est pas un objet. On doit trouver le plaisir et la jouissance par la reconnaissance de l'autre et même par, en allant au-devant de la manière dont l'autre veut atteindre le nirvana. C'est complètement autre chose que Sade. Alors bon, j'y vais à coup de serpe, là. Il dit aussi, Dufour, que la gauche court derrière le marché, qu'elle est en plein post-modernisme, qu'elle court derrière le marché, que le marché aura toujours un temps d'avance, et qu'évidemment les couches populaires désertent la gauche, et la gauche radicale vers d'autres cieux bien structurés, bien structurants, mais pas du tout émancipateurs. Donc là, il joue son rôle de vigile et faut être vigilant. Et j'essaie moi de faire partager ça en disant écoutez, arrêtez-vous, lisez un petit peu deux minutes ce qu'il raconte, réfléchissez ensemble. Oui, effectivement, on n'est pas effectivement en train de courir derrière le marché, on n'est pas plus sur les problèmes sociétaux que sociaux et économiques. Est-ce que l'émancipation est vraiment là? Je vais donner un exemple. Dans le CE où je travaille, il y a des saisonniers. Il y en a 2 millions en France de saisonniers. La copine qui s'occupe de ces questions-là nous disait en fait, les gens de droite ont besoin d'avoir une structure pour qu'ils s'occupent de ces saisonniers parce qu'ils ont besoin d'avoir une organisation en face pour pouvoir organiser les choses. Et je disais, mais les gens de gauche, elle dit, les gens de gauche font du ski. Donc voilà. Donc il y a ces 2 millions de saisonniers qui sont. Donc ils vont aller où, au bout d'un moment donné? Ils vont aller, quand les choses vont se tendre de plus en plus, ils vont aller vers la colère, etc. Et la colère, elle a différentes manières de s'exprimer, de trouver une structure d'accueil. Et on voit bien que l'extrême droite, ils ont lancé une contre-offensive dans les années 68 en créant le GRES. Il y a tous ces travaux avec Alain de Benoît, ils ont fait un vrai travail idéologique. Et c'est une structure d'accueil idéologique très importante pour les gens. Et à gauche, comme dit Dufour, me semble-t-il, on est un petit peu toujours en train de courir derrière le marché dans la postmodernité. Et oui, pendant ce temps-là, les couches populaires désertent.
Enfin, je ne sais pas si on court derrière le marché, mais en tout cas, les programmes des hommes politiques dits de gauche, en tout cas sociodémocrates, on ne peut pas même pas dire de gauche, en ce qui concerne notre actuel gouvernement, sont faits dans des think tanks qui sont dirigés par des grands patrons qui veulent juste servir leurs intérêts, et avoir un cadre législatif favorable à leurs intérêts. Tout le monde le sait, mais hélas, tout le monde ne le sait pas. Et le savoir ne change pas forcément les choses.
Non, mais ce qui importe de mon point de vue, c'est ce qu'on propose aux gens. Ce qu'on propose et l'image qu'on a de la réalité. Parce que je pense que l'écriture, alors qu'elle soit roman ou artistique, ou qu'elle soit intellectuelle, enfin, ou théorique, ça ne change pas le monde, mais ça change la représentation qu'on a du monde. Donc ça change le monde, quoi. Voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, je crois qu'en tout cas à gauche, et la gauche radicale, et dans des impasses. Et je crois que l'aide de philosophes, l'aide d'intellectuels, il ne faut pas avoir peur du mot, y compris d'artistes, est absolument nécessaire. Dans les années 30, Maurice Thorez, qui avait 32, 34 ans, qui créait le nouveau Parti communiste, il n'hésitait pas à proposer à des intellectuels et des artistes des places de premier choix. Aragon dirigeait un journal. Il faisait travailler des snooze dedans, Alain Cuny. La CGT commandait à Jean Renoir « La vie est à nous ». Le Parti communiste commandait à Jean Renoir « La Marseillaise ». Enfin, il y avait eu comme ça une fraîcheur, une inventivité. On sortait des systèmes, quoi. C'était pas des appareils. Hein.
Oui, l'art faisait partie de la vie. C'était pas juste un accessoire quelque chose qui se consommait.
Voilà. Donc aujourd'hui, la pensée d'un footballeur compte plus que celle d'un philosophe ou de quelqu'un qui essaie de penser. Alors, je dis pas que je fais pas d'intellectualisme primaire. Hein. Ceux qui ont déclenché la guerre dans les Yougoslavies, c'était des intellectuels. Mm-hmm. Karadzic, qui est psychiatre, poète, etc. Enfin, voilà. Je pense que la grande question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est que les couches populaires ? Oui, elles sont toujours là. Qu'est-ce que c'est ?
Et 30% d'ouvriers en France.
Voilà. Et quelle traduction politique ? Parce que si ce n'est pas la politique qui prend les choses en main, et si ce n'est pas eux-mêmes qui les prennent en main, ça sera la violence. Mmh. Ça sera la violence et ça sera l'injustice accrue. Elle existe déjà et ça sera une certaine barbarie. Donc, comment faire en sorte que la démocratie puisse vivre ? Et donc là, l'histoire, la bataille des idées est vraiment essentielle. C'est pourquoi je parlais de Badiou tout à l'heure, je parle de tous ces gens-là. Et j'essaie, dans un petit bouquin comme ça, de transmettre comme ça, de passer des témoignages, des idées, pour que les gens s'en emparent, bien sûr.
C'est très utile, ça fait un peu écho à une exposition de photos. Je suis allée voir, c'est à l'École des Beaux-Arts et c'est Françoise Huguier, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a photographié dans les pays d'Asie du Sud-Est des chambres, notamment d'étudiants, mais des endroits de vie. Et on voit sur ces photos des écrans plats, alors Hello Kitty est très très présent, tout est rose, tout est joli, il n'y a aucun livre. Et en fait, sur les cartels et les petits textes qui accompagnent cette exposition, on apprend que dans ces pays-là, la nourriture est assez peu chère. Les produits de haute technologie, comme les tablettes, les téléphones, les écrans plats, etc., sont très bon marché aussi. Et que par contre, dans certains de ces pays, je pense à la Malaisie, l'enseignement de la philosophie est interdit. Et voilà. Et on voit qu'elle a photographié donc des chambres même d'étudiants sans aucun livre, mais avec des écrans. Et voilà. Et donc, c'est ce qu'on appelle une dictature douce, quelque part.
Oui, oui, tout à fait.
Et j'ai peur que la société qui vient, si on ne résiste pas, ce soit un petit peu ça.
Ben oui, c'est ça. Oui, oui, mais tout à fait. Mais en même temps, je pense qu'on est, je ne sais pas si c'est une majorité, mais les gens ne sont pas idiots. Ils voient bien dans quoi ils vivent, ils s'arrangent comme ils peuvent.
Oui, mais quels sont leurs désirs quand ils ont été élevés par la télévision, par la publicité ?
Non, mais ça, je suis d'accord. Mais en même temps, ils n'ont... Enfin, même... Alors, il y a une partie qui marche complètement dans les... Mais ils n'ont pas forcément les moyens de comprendre comment s'en sortir, quoi. Donc, il faut s'y donner. Mmh. Donc, ça ne vient pas tout seul. Donc, ça passe forcément par le politique. Et le politique passe pas face... forcément par l'intelligence théorique, intellectuelle, artistique. Jack London a joué un rôle énorme, je veux dire, à une époque, maintenant, avec ses livres. Hugo aussi, en France, a joué un rôle énorme, énorme, énorme. Et donc, je dirais que c'est un combat sans cesse recommencé, quoi.
Vous, par exemple, comment vous êtes venu à la culture, à la littérature ? Vous dites que vous venez d'une classe populaire, vous avez été à l'école de la République, mais avec une vie pas forcément, une enfance pas forcément facile, ensuite plein de petits métiers plutôt ouvriers, ou même sous-ouvriers. Et comment vous êtes devenu l'intellectuel que vous êtes ?
Alors ça, je pense que c'est, comment dire, d'abord c'était une autre France. Hein. Moi, j'ai grandi dans la France de De Gaulle. Donc il y a une télévision avec des émissions extraordinaires. La caméra explore le temps en direct. Hein. Il y a des Stelio Lorenzi fait. Bon voilà, il y a des créations télévisuelles qu'on ne reverra plus jamais. Enfin, c'est une chance inouïe. Il y a ça. Il y a l'éducation communale avec et il y a le modèle tout de même, c'est les intellectuels à l'époque. Le modèle, c'est Sartre, c'est... Moi, je suis rentré au Parti communiste par Sartre. Celui qui sait et qui ne s'engage pas est un salaud. Moi, je ne voulais pas être un salaud. Donc, voilà. Alors, après, c'est toujours un peu plus complexe. Hein. Mais, donc, voilà. Et puis, je pense que l'image qu'on veut avoir de soi, bon, aujourd'hui, il y a ceux qui veulent être footballeurs chez les gamins, il y a ceux qui veulent être chanteurs, ceux qui veulent être vétérinaires ou je ne sais quoi. Pour moi, la lecture, les livres, que j'ai rencontré donc grâce à l'école, grâce après bien sûr l'engagement au Parti communiste, il fallait absolument lire, il y avait des écoles, il fallait se former, etc.
Oui, il y a une phrase dans le livre qui dit « il ne suffit pas d'avoir des bibliothèques, il faut y aller ».
Oui, voilà, il faut y aller. Et donc, ça a été un vrai, comment dire, un vrai engagement que d'y aller, parce que je me disais, c'est essentiel ce qu'il y a là-dedans. Aragon, par exemple, je ne peux pas lire avant 25 ans, moi, avant l'âge de 25 ans. Je viens à un cours de Jean Levaillant sur la Semaine Sainte. Je suis évidemment bouche bée, comme un ébahi, un peu abruti pendant tout le cours, d'entendre ces choses qui parlaient de la vie réelle, quoi, de manière totalement inconnue pour moi. Mais donc, je me suis dit, ça vaut peut-être le coup d'aller faire un effort pour aller voir ce que c'est précisément, quoi. Et donc, évidemment, on surtravaille quand c'est comme ça. On lit 10 fois plus, on n'est pas sûr d'avoir bien compris, donc on relit, donc on a un grand agent.
Vous êtes comme Aragon, alors c'est le doute qui vous a fait avancer.
Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui, c'est le doute c'est comment dire le fait de ne pas pouvoir de comment dire d'être. Il faut un minimum de sécurité dans ce qu'on dit, quoi. De pas d'assurance, mais de réassurance, comme on dit en psychanalyse, quoi. Il faut que les choses soient un petit peu solides pour qu'on puisse appuyer dessus et continuer à avancer. Sinon ça foire, quoi. Sinon on s'enlise. Sinon on n'avance pas. Sinon le mouvement s'interrompt. Et donc c'est une question de génération, je pense. Et puis la chance d'avoir aussi rencontré des gens qui m'ont dit peut-être va regarder là-dedans. Et puis, la découverte de la lecture très jeune aussi. Hein. Il y avait les livres de poche. Quand je suis tombé sur Le vieil homme et la mère d'Hemingway, ça a été une révélation, quoi.
On va écouter un petit rondeau de Jean-Philippe Rameau tout de suite.
Yeah.
Donc, Jean-Philippe Rameau, c'est votre choix, Valère Starazelski.
Les Indes Galantes.
Les Indes Galantes.
C'est de la musique française.
Mais justement, dans le livre, il faut vraiment lire, il y a tout un passage sur la question nationale.
Oui, là encore, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que Fidel Castro disait que les communistes s'étaient plantés sur trois choses. L'État, la nation, la religion. Alors rapidement, l'État, c'est Gramsci qui dit le premier. Il dit il y a du stalinisme parce qu'il n'y a pas eu trop d'État, mais pas assez d'État. Et moi, je pense qu'il faut un État. Je ne fais pas partie des communistes qui disent qu'il faut une disparition de l'État. Il faut un État parce que comment on fait pour la question écologique? Comment on fait pour régler les problèmes? Il faut un arbitre, il faut une organisation. Mmh. Simplement, il faut que ce soit un État démocratique. Et ça, c'est une bataille sans nom. La nation, c'est quelque chose qui n'est pas encore dépassé. Peut-être qu'elle le sera un jour. Et c'est il y avait un type qui a voté non à Maastricht, qui est un libéral, Pierre Manant. Et ben, j'en parle dedans. D'ailleurs, ouais, j'ai fait un article dans l'UMA. Il dit que l'abaissement de la nation, c'est l'abaissement de la démocratie. Or, aujourd'hui, à gauche, on ne le dit pas assez. D'autres le disent, malheureusement. Mmh. Et la nation, c'est pas forcément les parachutistes. Hein, c'est le Champ de Mars, c'est le Front Populaire. C'est la résistance,
c'est la commune aussi.
C'est la commune, oui, voilà, c'est ça. Donc, et la dernière chose, c'est la religion. Je pense qu'effectivement, les religions ont été à un moment donné un bon qualitatif. Le christianisme, par exemple, c'est l'affirmation de la fin de l'esclavagisme. C'est pas la fin, mais c'est l'affirmation que, voilà, c'est... Et la création des monothéismes, notamment la religion juive, on pense... Les dernières recherches montrent que ça serait en fait une révolution égalitaire qui s'est faite en Palestine à ce moment-là. Et donc, ça serait né de ça. Donc, évidemment, aujourd'hui, il y a des intégristes. Il s'est dépassé de mon point de vue. Hein, mm-hmm. Je veux dire, moi, je suis profondément athée, etc. Simplement, les religions ont été un substrat à notre humanisme à un moment donné. Donc, ça ne sert à rien de tirer à boulet rouge dessus. Je veux dire, on renforce les intégrismes. Donc, les Russes et les Soviétiques ont rasé les églises. Mm-hmm. Bon, mais elles sont construites après. Donc, il faut s'y prendre autrement. Mm-hmm. Nation, État, religion. Il faut vraiment s'y prendre autrement.
Non, puis la religion, après ça, c'est aussi peut-être une forme de conscience supérieure qui peut être aussi
En Allemagne de l'Est, la révolution pour sortir du régime de Honecker, c'est dans les temples, ça s'est fait. Hein. Mm-hmm. Voilà. Donc, moi, j'oublie pas qu'il y a le secours populaire, oui, mais il y a le secours catholique aussi. Enfin, tout simplement.
Il y a la CIMADE, il y a ATD Quart-Monde.
Oui, pour moi, les chrétiens, c'est mes frères aussi. Mm. Et c'est pas.
À partir du moment où ils ne sont pas prosélytes, enfin voilà, c'est à ces gens-là que je pensais.
Oui,
justement,
pas d'intégristes.
À témoignage chrétien aussi.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a un retour de. Une fois, j'étais à Rouen. À une fête du Parti communiste, où mon premier bouquin, il parlait d'Aragon. Et le soir, je suis arrivé en avance à la gare de Rouen. Donc, c'était dans la nuit. C'était un dimanche soir et c'était très beau. Il y avait cette gare avec de la fumée qui s'échappait d'une cheminée. Et il y a une petite butte sur la droite. Donc, comme j'avais une heure d'avance, je me suis baladé. Et j'ai vu des gens qui mendiaient devant un bâtiment. En fait, il y avait une dizaine de mendiants qui étaient là de part et d'autre de démarches. Et c'était une église. Mmh. Il était 18h30. Je suis rentré, l'église était pleine. Archi pleine de gens. Et il y avait une messe là. Je suis resté un quart d'heure à regarder, je n'ai pas osé parler aux gens, etc. Et j'ai compris que c'était une messe. Donc, il y a quelque chose qui se passe aussi par rapport à ça. Et donc, c'est un phénomène en soi.
C'est l'apprentissage du collectif pour certains.
Oui, oui.
Ça, bon, c'est aussi l'apprentissage de l'obéissance. Donc
C'est pour ça qu'on ne peut pas comme ça. Je ne sais pas, je n'ai pas écouté ce que disait le prêtre, mais ça se trouve, c'était un prêtre progressiste ou peut-être un prêtre réac. Hein. En tout cas, les gens étaient rassemblés pour l'écouter. Quoi. Mmh. Et c'était très étonnant et beaucoup de jeunes, beaucoup, beaucoup de jeunes.
Ah oui. Ouais. C'est étonnant parce qu'on dit que les églises sont vides et que personne n'y va.
Et ben voilà. Là encore.
Là encore. Alors, il y a deux choses que je voudrais évoquer avec vous. C'est deux sommes que vous avez réalisées. Mmh. L'une autour du journal L'Humanité.
Oui.
Je crois 1904-2004. Vous avez.
Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a un bouquin que Roland Leroy a signé et que j'ai fait en fait avec lui puis nous, trois autres personnes. Un siècle d'humanité. Donc, quand le journal L'Humanité, qui est le plus vieux journal français avec le Figaro est plus vieux, plus ancien. Mmh. A eu 100 ans, donc on a fait un choix d'articles par année, de 1904 à 2004, avec à chaque fois une présentation de ce qui se passait dans le monde, en Europe, en France, et les grands moments traités par le journal L'Humanité.
Mmh. Oui,
ensuite, on m'a demandé d'écrire pour la fête de l'UMA cette fois-ci, 80 ans de fête de l'UMA, Et donc, je m'y suis collé une deuxième fois. Et donc, c'est deux livres différents, mais en même temps, c'était passionnant.
Et puis, c'est lié, puisque la fête de l'humain, c'était au départ pour soutenir le journal.
Oui, voilà. Alors, voilà, ça s'est passé comme ça. Il y a eu à Beson, en 1930, une fête des comités de défense de l'humanité, puisque... Enfin, il y a eu une fête, il y a eu un congrès, puisqu'on met les dirigeants communistes en tôle, on veut asphyxier financièrement le journal. Donc, il y a des comités de défense qui se créent, qui font un congrès à Beson. Et là, ils font une petite fête après. Et il pleut comme vache qui pisse, comme souvent à la fête de l'Huma. Voilà. Et Maurice Thorez chante le petit quinquin et il ramasse de l'argent pour les mineurs en grève dans le Nord, déjà. Et en fait, à partir de ce moment-là, a été créée la fête de l'humanité, qui existe toujours et qui fait partie un petit peu du patrimoine national. Hein. C'est comme les vendanges et la tour Eiffel. Faut y aller au moins une fois. Mmh. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que je me disais, le Parti communiste français étant réduit à peau de chagrin, etc., n'existant plus et tout, le monde, il y a moins d'affluence, il y a toujours autant de monde. Mmh. Un demi-million de personnes, à peu près, à chaque fois. Donc, je me suis interrogé sur qu'est-ce qui fait le succès de cette fête. Et je pense que c'est, comment s'appelle-t-il le chorégraphe...
De Coufflet, non.
Non, le chorégraphe qui est mort il y a à peu près 10 ans, qui travaille en Suisse, très connu.
Oui, je vois très bien. J'espère que les auditeurs aussi.
Et donc, j'avais vu d'ailleurs de lui à la fête de l'Huma avec la Plitescaïa, le boléro de Ravel.
Ouais.
Et lui disait qu'en fait, c'était comme les grandes fêtes du pardon du Moyen-Âge, c'était la fête du peuple.
Ah.
Et la fête de l'humanité, effectivement, c'est un endroit où toutes les couches sociales sont brassées, etc. Mais ce qui fait quand même l'affluence essentielle, c'est les couches populaires, quoi.
Mmh.
Et c'est vrai que c'est un endroit, presque magique, fatigant, etc. Mais où il s'est passé vraiment plein de choses, quoi.
Des gens assez inattendus, vous le racontez, sont venus de Johnny Hallyday, des gens pas forcément de gauche, d'ailleurs.
Bien sûr, oui. Johnny Hallyday, d'ailleurs, il avait raté une fête de l'Huma, qui avait tenté de se suicider. Il est revenu chanter plusieurs années après, gratuitement.
Voilà. Il a même remis une enveloppe au secrétaire de la CGTFO-CFDT.
Oui, ça,
voilà.
c'était à l'époque, oui. On avait aussi, quand le journal était très, très, très en grande difficulté, on avait demandé à Manu Chao, qui lui avait refusé, tandis que Patrick Bruel avait donné ses 30 000 euros à l'Huma. Directement, quoi. Mmh. Voilà, c'est un endroit démocratique, disons, très, très important, et de d'art aussi, de littérature, de rencontres, de vie.
Mmh. Alors, on ne parlera pas, parce qu'on n'a pas le temps, il nous reste moins d'une minute, d'un siècle de vie ouvrière. C'est la VO, c'est le journal de la CGT. Hein.
Voilà.
Et vous avez fait, pareil, une sorte d'exégèse de ce journal. On trouve, il y a une anthologie de petites phrases assez savoureuses. Donc, par exemple, on voit qu'en 1936, mmh. on pouvait y lire « La Banque de France doit appartenir à la nation mmh. ». Voilà, par exemple. Mmh. Pareil, en 1930, pendant que le gouvernement fait la chasse aux immigrés, soupçonné de sympathie mmh. avec... Voilà. Le grand patronat utilise à plein la main-d'œuvre étrangère dans sa lutte contre les salaires. Des choses qui restent d'une actualité, mais absolument brûlante. Ouais. Et puis, alors, si plus anecdotique, en 1959, à l'époque où fumer, c'était absolument naturel pour tout le monde, aucun tabac n'est inoffensif, ce geste innocent, fumer, peut vous tuer.
Oui,
déjà.
Ouais, dans la vie ouvrière.
Voilà.
À l'époque, oui.
Donc, c'était un journal étonnant.
Ben oui, en fait, c'était le journal des communistes dans la CGT. Ils ont fait une bêtise, c'est que ce journal est devenu le journal officiel de la CGT, donc il était moins bon après, mais enfin il existe toujours. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut pas se passer des couches populaires et du mouvement ouvrier. Quand on est un artiste ou un intellectuel digne de ce nom, il faut absolument le prendre en compte dans sa vie, tout simplement.
On va terminer cette émission avec quelques mots d'Aragon que vous allez nous lire, parce que vous avez amené un petit texte,
voilà.
Que j'ai pas du tout envie qu'on s'en passe.
Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc Aragon a plus de 60 ans passé et il lit un discours à des jeunes rassemblés, et dans ce discours qui s'appelle Jabba mon jeu, il dit notamment ceci. Je n'ai pas toujours été l'homme que je suis, j'ai toute ma vie appris pour devenir l'homme que je suis, mais je n'ai pour autant pas oublié l'homme que j'ai été, ou à plus exactement parler, les hommes que j'ai été. Et si entre ces hommes-là et moi il y a contradiction, si je crois avoir appris, progressé, changeant, ces hommes-là, quand me retournant je les regarde, je n'ai point honte d'eux, ils sont les étapes de ce que je suis, ils menaient à moi, je ne peux dire moi sans eux. Je connais des gens qui sont nés avec la vérité dans leur berceau, qui ne se sont jamais trompés, qui n'ont pas avancé d'un pas de toute leur vie, puisqu'ils étaient arrivés quand ils avaient encore la morve au nez. Ils savent ce qui est bien, ils l'ont toujours su. Ils ont pour les autres la sévérité et le mépris que leur confère l'assurance triomphale d'avoir raison. Je ne leur ressemble pas. La vérité ne m'a pas été révélée à mon baptême. Je ne la tiens ni de mon père, ni de la classe de ma famille. Ce que j'ai appris m'a coûté cher. Ce que je sais, je l'ai acquis à mes dépens. Je n'ai pas une seule certitude qui ne me soit venue autrement que par le doute, l'angoisse, la sueur, la douleur de l'expérience. Aussi ai-je le respect de ceux qui ne savent pas, de ceux qui cherchent, qui tâtonnent, qui se heurtent. Ceux à qui la vérité est facile, spontanée, bien entendu, j'ai pour eux une certaine admiration, mais je l'avoue, peu d'intérêt. Quand ils mourront, qu'on écrive donc sur leur tombe, il a toujours eu raison, c'est ce qu'il mérite, et rien de plus.
Bravo. J'avais justement repéré ce texte, je le trouve magnifique. Et si vous ne l'aviez pas lu, j'aurais eu envie de le lire.
Voilà, donc ça c'est
Aragon. Et c'est dans Face au Nouveau Maître que je recommande, c'est paru aux éditions L'Armatan. Valère Sarazenski, il faudra qu'on se revoie parce qu'on a plein de choses à évoquer ensemble. Hein.
Bah écoutez Eugénie, oui, là je suis en train d'écrire une suite à une histoire française qui racontait les 25 ans avant la Révolution française. Ça s'appelle L'Adieu au Roi, c'est l'extraction des corps royaux en 93 et 94 dans l'abbaye de Saint-Denis à l'époque. Et je ne raconte pas du tout ce que raconte Laurent Deutsch, parce que je suis allé chercher les témoignages que j'ai recopiés au crayon de papier à la Nationale. Et je suis en train d'écrire ça.
Bon, voilà. Bon courage et puis à très bientôt.
Merci Eugénie,
beaucoup.
Merci.
Et un grand merci à Ricardo Burgos qui réalisait cette émission. Dans quelques instants, vous retrouverez toute l'équipe de l'Europe buissonnière pour leur émission. À l'année prochaine en ce qui me concerne.
La négresse qui danse encore à minuit dansera jusqu'à...